Depuis quelque temps, notre Église met l'accent sur cette vie de disciple. Et une vie de disciple, c'est de suivre Jésus et d'aider d'autres à suivre Jésus. Le nom chrétien, c'est bien de porter le nom chrétien, mais si derrière il n'y a pas cette réalité d'une vie de disciple, on est chrétien de nom seulement, mais c'est pas ce qu'on veut pour notre Église et pour notre entourage. On veut être de véritables disciples de Jésus-Christ. Et pour nous aider à être ces vrais disciples de Jésus-Christ, nous regardons en particulier la vie de Pierre, l'apôtre Pierre, un personnage important du Nouveau Testament, avec tout un parcours avec son Seigneur Jésus. Nous avons vu ses débuts où Jésus l'a appelé à le suivre, lui qui était pêcheur à côté d'un lac. Et nous avons vu quelques moments forts de sa vie où il va découvrir des choses sur Jésus, il va apprendre ses propres faiblesses. Et maintenant, nous regardons quelques passages qu'il a écrits vers la fin de sa vie. Maintenant, il a l'expérience, il est vieux et il veut encore transmettre des choses à des chrétiens pour les aider à vivre cette vie de disciple. Donc, si vous avez trouvé 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 5. 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ce matin, j'aimerais souligner un mot en particulier, c'est celui du modèle que vous voyez en verset 3, en étant des modèles du troupeau. Ici, Pierre s'adresse à des responsables d'église, à l'équipe pastorale, des bergers, des anciens. Et il dit que la conduite du troupeau se fait grandement par exemple, par modèle. Comme il dit en versets 2 et 3, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Et verset 3, « Non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Paissez le troupeau en étant les modèles du troupeau. Et lorsqu'on peut conduire un troupeau en étant un modèle, ça évite de devoir dominer, comme il dit, non en dominant, mais en étant les modèles. Donc la conduite, l'enseignement dans une église se fait grandement par modèle, par exemple. Et si ce passage s'applique particulièrement aux anciens et aux pasteurs, il est tout aussi vrai pour toute étape de la vie des disciples et pour tout chrétien qui veut être un modèle pour d'autres. Dieu a créé un monde où nous progressons vers la maturité dans la compagnie des autres qui sont plus anciens que nous, plus anciens en âge et aussi plus anciens dans la foi, pour progresser ensemble. Dieu ne nous a pas tous créés à l'âge adulte. Il a créé des enfants qui grandissent vers l'âge adulte en prenant comme modèle les anciens. Et cette réalité se vit en particulier dans la famille et aussi dans l'église, où c'est grâce à un modèle que nous allons avancer. J'aime bien ce que Albert Schweitzer a dit. Albert Schweitzer, c'était un médecin, mais aussi un pasteur, un missionnaire en Alsace. Il était lui-même prix Nobel de la paix. Il a dit ceci, très intéressant. Il a dit, l'exemple n'est pas la principale façon d'influencer les autres, c'est l'unique façon. L'exemple n'est pas la principale façon d'influencer les autres, c'est l'unique façon. Certainement, il exagère un peu, parce que l'enseignement et l'exhortation ne se fait pas uniquement, par exemple, d'ailleurs, dans notre texte, Pierre dit, voici l'exhortation que j'adresse. Donc, il y a une place pour l'exhortation, pour l'enseignement. Mais sans le modèle, sans le vécu, sans l'exemple, l'exhortation devient vite dominatrice ou même hypocrite. Et Pierre lui-même, il se met à la place des anciens, il s'appelle pas, ici, il ne dit pas « je suis le grand apôtre », il dit « je suis ancien comme vous ». Et donc lui-même se donne comme un exemple de cette exhortation même qu'il est en train de nous donner. Donc, l'importance de l'exemple, c'est ce que nous allons voir ce matin dans notre vie de disciple. En tant que disciple, nous devons être un exemple pour d'autres et nous devons suivre des modèles. Donc, voyons quelques simples vérités ce matin. Inévitablement, vous serez un modèle pour d'autres. Alors, soyez un bon. Et deuxièmement, nous allons voir que inévitablement, vous serez influencé par d'autres modèles. Choisissez les biens. Et troisièmement, inévitablement, vous serez déçu par des hommes. Regardez à Christ. Tout d'abord, inévitablement, vous serez un modèle pour d'autres. Alors, soyez un bon. Cette vérité est une des raisons que Dieu a voulu des anciens qualifiés dans une église. Parce que cette vérité, c'est qu'on reproduit ce qu'on met en avant. Les personnes visibles, les personnes qui sont en avant, les personnes qui conduisent, ils vont forcément se reproduire, ils vont influencer d'autres. On reproduit ce qu'on met en avant. Nous sommes en permanence, chacun de nous, un modèle de quelque chose pour d'autres, d'autres qui nous suivent, d'autres qui sont plus jeunes que nous, d'autres qui nous observent. Nos vies sont toujours en train d'enseigner quelque chose. C'est une vérité que tout parent apprend rapidement ou devrait apprendre rapidement. La question n'est pas est-ce que ma vie est un exemple ou pas, mais plutôt quel exemple donne ma vie. Le père absent, colérique, est un modèle. Il est en train d'enseigner quelque chose. C'est un mauvais modèle, il enseigne des mauvaises choses, mais il enseigne. Et nous ne voulons pas oublier cette réalité quotidienne. D'après le célèbre poète anglais John Donne, « Nul homme n'est une île ». C'est-à-dire, c'était dans un poème, mais « Nul homme n'est une île », c'est-à-dire il fait partie d'un continent. Il fait partie d'un ensemble d'humanité. Nous ne sommes pas des êtres isolés, nous sommes reliés en connexion avec d'autres. Le comble, cela vient d'un anglais. C'est pas une idée très Brexit que de dire nul homme n'est une île, on a besoin d'un continent. Mais il parlait aussi de la vie, de la manière de vivre et de se comporter. Aujourd'hui, beaucoup réfléchissent en disant je suis une île. Je suis une île, je peux faire ce que je veux tant que je ne fais pas mal aux autres. Ça, c'est l'attitude qu'on trouve souvent. Voilà. Je peux faire ce que je veux tant que je ne fais pas mal aux autres. Mais cette attitude oublie que nos vies impactent tant d'autres dans ce monde, même par nos choix personnels, même lorsqu'on pense que ça ne concerne d'autres. Et en fait, ça touche beaucoup d'autres vies. Vous êtes observé plus que vous ne le pensez. C'est vrai dans la famille, mais c'est aussi vrai dans une vie de disciple. Vous êtes observé plus que vous ne le pensiez. Alors, au lieu d'être inconsciemment un mauvais modèle, soyons intentionnellement un bon modèle de vie chrétienne. Et nous avons vu ça vraiment dans la vie de Jésus et sa manière de former ses disciples. Jésus, si vous regardez, si on lit les histoires dans les évangiles, en fait, vous constatez que Jésus est souvent en train de faire plusieurs choses à la fois. Il parle à une femme samaritaine pour la toucher à salut, pour l'inviter à découvrir le vrai salut, le vrai Messie. Il parle à cette femme samaritaine un jour, mais tout en parlant à la femme samaritaine, il est aussi en train d'enseigner des choses à ses disciples, des choses sur la mission, des choses sur le racisme, des choses sur l'intérêt de passer par la Samarie. Et donc les disciples sont en train d'être formés par son exemple, pendant que même il évangélise une femme samaritaine. Ou bien Jésus va multiplier les pains pour nourrir une foule. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir nous-mêmes reproduire et nous-mêmes. Mais il nourrit la foule, une foule affamée, une foule qui est dans le désert, qui a besoin de nourriture pour montrer sa compassion vers la foule. Il nourrit une foule, mais en même temps, il est en train de former aussi ses disciples et leur apprendre des choses sur sa personne, sur la foi, sur la réalité derrière ce miracle. N'oubliez pas donc cette double action qui est toujours une réalité dans votre vie aussi. Vous faites quelque chose, mais probablement d'autres observent votre manière de le faire. Et ce qui va les marquer, les aider à grandir. Alors, vous priez, votre vie de prière. C'est vrai que vous priez à Dieu. C'est Dieu qui, en priant, on parle pas aux autres. Mais lorsque vous priez à Dieu ou que vous ne priez pas, vous êtes en train d'enseigner aux autres comment prier. Lorsqu'on se réunit ici le dimanche matin, vous chantez pas, vous êtes en train d'apprendre aux autres de chanter ou de pas chanter. Beaucoup de choses dans la vie chrétienne, on l'apprend par exemple et par modèle. Et c'est pour ça que Dieu a voulu qu'il y ait des anciens dans l'Église. Alors, posons-nous la question, s'il faut être un modèle, de quoi faut-il être modèle? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire pour être un exemple? Et je pense qu'il y a plusieurs choses où nous pouvons être un modèle et un exemple pour les autres. Tout d'abord, c'est le premier, c'est le caractère chrétien. La vie chrétienne, nous pouvons être un modèle, un exemple pour les autres. Notamment les anciens, ils sont appelés à être modèles du troupeau, et la Bible donne précisément les qualités d'un ancien. Et si on donne les qualités d'un ancien dans la Bible, c'est pour reproduire ces mêmes qualités dans toute l'assemblée. Vous connaissez les qualités d'anciens, ils sont précisés en deux endroits de la Bible, les épîtres pastorales, 1 Timothée chapitre 3 et Tite 1. Je vous lis juste un extrait des qualités de l'ancien, mais c'est pour être un modèle pour tous. Tite 1, verset 7 dit, car il faut que l'ancien ou l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté un gain honteux, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Ça, c'est les qualités d'un ancien. Et si on demande ces qualités d'un ancien, c'est pour les reproduire dans la vie de tous. Alors ce matin, tout homme peut se dire, voilà, je suis potentiellement un jour un ancien. Donc ça c'est les qualités que je veux aussi modeler pour d'autres. Toute mère, toute monitrice d'école de dimanche, je dis, voilà, je suis en train de peut-être former un futur ancien d'église. Donc je veux imager, modeler ces qualités aussi dans leur vie. Donc nous sommes appelés à être des modèles du caractère chrétien qui est grandement décrit dans les qualités d'un ancien et ainsi que dans toute la Bible. Mais pas que le caractère chrétien, le caractère moral et intègre qu'on demande aux responsables chrétiens. Nous pouvons aussi être un modèle, un exemple de, on va dire, de faiblesse et de souffrance ou de patience dans la souffrance. Ça, c'est un peu différent que le caractère moral, mais là aussi, nous pouvons être un modèle qui va parler fort dans d'autres vies. Pierre lui-même dit, je suis témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit venir. Donc c'est vrai, il est témoin en tant qu'apôtre, il était témoin, il a vu les souffrances de Christ à la croix. Mais ce mot témoin signifie aussi qu'il, comme martyr, que lui-même va participer, va souffrir avec Christ, comme tous ceux qui le suivent, et c'est vraiment le cadre de cet épître. 1 Pierre s'adresse, parle beaucoup des souffrances et des épreuves. Ces chrétiens sont un peu chamboulés en traversant quelques épreuves, et Pierre veut les rassurer. Mais c'est justement la manière que nous allons traverser une épreuve, la manière que nous allons traverser une souffrance qui va être si parlant dans la vie des autres. La manière que vous réagissez à une épreuve sera la chose probablement la plus importante que vous allez enseigner à votre entourage, bien plus que des choses que vous pouvez dire. Et ce matin, je pense effectivement à Ria Pelzer, la manière qu'elle a vécu son cancer. Elle n'a pas gaspillé son cancer, au contraire, elle a utilisé pour transmettre tout autour d'elle une vie de foi, un attachement au Seigneur, une paix, une sérénité. Quel message parlant que l'on peut avoir lorsque on devient un modèle dans l'épreuve. Il y a des grosses épreuves comme le cancer, après il y a les petites choses de la vie, les contretemps que vous allez vivre. Vos enfants, votre entourage va voir ces choses. Mon beau-père, j'apprécie mon beau-père, et ses voitures ont souvent tendance de tomber en panne. Mais quand la panne arrive, et la panne arrive toujours à un moment qui ne convient pas, toujours impressionné par son calme, sa joie, sa paix, une fois, on allait, donc j'étais dans sa voiture, un minibus, 9 places, et on allait vers, c'était la présentation de mon mémoire de fin d'études, avec Rebecca aussi, on était dans la voiture, c'était le jour où on présentait le mémoire, donc on est tous habillés en beau pour ce jour important, lui faisait partie un peu du jury aussi, ou en tout cas des pasteurs qui écoutaient, et on allait tous à l'église ainsi, et puis il y avait une panne de voiture, et dans ces voitures-là, le moteur, le capot, et à l'intérieur du voiture, c'est un peu entre le conducteur et le passager, on soulève là où il y a souvent la boîte à vitesse, et là on accède au moteur. Donc il y avait cette panne, on ne savait pas quoi, et il ouvre le capot à l'intérieur de la voiture, moi j'étais juste assis derrière, et il décide qu'il y avait un problème de liquide de refroidissement, donc il ouvre le thing, et puis dans la voiture, un geyser de liquide de refroidissement sur ses habits, sur mes habits, sur tout le monde. Voilà, ça n'a pas changé, sa foi était là, son calme était là, sa joie était là. Il ne s'est pas énervé, il ne s'est pas joyeux. Ce genre d'expérience, vous allez marquer des vies, peut-être plus que de lire un verset. Nous pouvons être des exemples de patience dans la souffrance et dans l'épreuve. Et enfin, je pense à une autre chose, nous pouvons être exemples de repentance et d'humilité. Parce que quelqu'un dit ce matin, oui, bon, ok, on me demande d'être un modèle pour les autres, mais je sais très bien, ma vie chrétienne n'est pas exemplaire. En tout cas, cette semaine, j'ai raté. Je ne suis pas un chrétien parfait, alors tout ce qu'on dit ce matin, c'est pas pour moi, c'est raté pour moi. Mais justement, nous pouvons être aussi exemple et modèle de repentance, d'humilité. Le livre que nous étudions en cellule, Évangéliser sans le maître, Coleman dit ceci, nous ne sommes pas parfaits comme l'était notre Seigneur. Et les personnes à qui nous ouvrirons notre vie verront nos défauts. Mais laissons-les voir notre bonne volonté à confesser nos péchés. Donc vous pouvez, c'est vrai que Dieu nous appelle à être des modèles de vie, de caractère et de vie chrétienne. Mais si nous échouons, nous pouvons être modèles de repentance. Et c'est là où l'apôtre Pierre, c'est pour ça qu'on l'aime tant. Lui, ce n'était pas un apôtre parfait, loin de là. Il n'est pas un modèle de perfection, mais ça nous rassure plutôt. Encore mieux, il est un modèle de quelqu'un qui est revenu à Christ dans ses échecs, dans ses péchés. Après, vous le voyez, il va pleurer amèrement après avoir renié le Seigneur. Et on le retrouve rapidement, il revient à Christ en professant son amour pour son Sauveur. Même vieux ici, il reste humble. Il va dire, je suis ancien comme vous. Il ne joue pas la carte de l'apôtre le plus important, encore moins le premier pape. Il sait que sa vie, il a bénéficié de la grâce de son Seigneur. Donc nous pouvons être exemple aussi des gens qui saisissent la grâce de Dieu lorsque nos vies sont imparfaites. Et ça aussi, ça va parler à nos enfants, à notre entourage, tout autant que de vivre droitement. Donc rappelez cela, inévitablement vous serez un modèle pour d'autres, soyez un bon. Voyons maintenant que inévitablement vous serez influencé par d'autres modèles, choisissez les biens. Après avoir parlé notamment aux responsables du troupeau, Pierre s'adresse à d'autres personnes, notamment ceux les plus jeunes, qui sont appelés à suivre, à se soumettre aux anciens, à profiter de leur modèle. Verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Donc, Pierre s'adresse à ces jeunes et les appelle à bénéficier du cadre que tu as donné, où il y a des gens plus anciens dans la foi qui peuvent leur être des modèles. Alors je vous demande tous, jeunes et moins jeunes, qui sont vos modèles? Qui sont vos exemples de vie chrétienne? Comme qui voulez-vous devenir un jour? Savez-vous la différence entre une célébrité et un héros? Aujourd'hui, nous avons plein de stars, de célébrités, mais peu de héros. Les célébrités, ils attirent les foules parce qu'ils sont riches, ils sont belles, ils sont sportives, et quelque part, tout le monde a dit « je veux être comme eux ». Mais si vous creusez un peu, en général, ils ne sont pas de bons modèles de vie. Il suffit de voir les nombreux scandales qui entourent souvent les célébrités, leur vie parfois dissoute, les mariages ou l'absence de mariage. Les héros, par contre, souvent, ils sont inconnus, ils sont invisibles, ils sont méprisés par le monde, en tout cas de leur vivant. Mais c'est après qu'on constate leur courage, leur intégrité, leur fidélité, leur conviction. Et ça fait d'eux des inspirations, des modèles de tous. Donc, ne vous trompez pas sur les célébrités et les vrais héros. Choisissez plutôt des héros comme modèles. Mais ce n'est pas forcément que les médias vont mettre en avant. Certains modèles vous sont imposés, c'est sûr, les parents. Les parents vont vous influencer. Les profs que vous pouvez avoir dans votre parcours éducatif. Ce sont des modèles qui vous sont imposés. Et peut-être, notamment dans le cadre de la famille, vous n'avez pas eu un bon exemple. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas condamné à vie à subir un mauvais exemple. Vous pouvez aussi choisir des modèles et vous exposer à leur influence. Et c'est une raison que Dieu a pensé à l'Église. Justement, Dieu a mis en place l'Église, et c'est dans l'Église que nous avons trouvé les modèles, parfois les modèles que nous n'avons pas eus en grandissant, que nous ne trouvons pas dans le monde. Dieu nous les a donnés dans l'Église. Et Dieu a voulu mettre des jeunes et des moins jeunes ensemble pour que tous grandissent ensemble. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'humilité. Les anciens ont besoin d'humilité pour être un bon exemple, et ne pas dominer. Et les jeunes ont besoin d'humilité pour repérer, et regarder et suivre les bons modèles qui vont leur apporter une bonne chose dans la vie. Et c'est pour ça que l'Église est tellement importante. Donc voyons où nous pouvons trouver des bons modèles. Nous, sachant que nous, on sera influencés inévitablement pour des modèles, alors on va chercher notamment d'abord dans l'Église locale. Dans notre famille d'église, on va vouloir chercher des modèles et d'exemples à suivre. Et c'est ça, la vie du disciple, c'est qu'on a besoin de quelqu'un pour nous montrer. Et c'est ça l'église. L'intérêt de l'église, c'est que Dieu nous a mis ensemble à toute étape de la vie chrétienne pour grandir, pour qu'un jeune puisse regarder quelqu'un plus avancé que lui et savoir comment vivre. Une brebis qui fait bande à part, il se prive des modèles et de la protection du troupeau. Parce que juste après, Pierre va parler du lion, le diable qui rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc, un chrétien sans église, sans une vie d'église, c'est une brebis solitaire dans un champ où il y a déjà le lion qui rôde. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée pour le brebis. Le lion, il aime ça. Mais la brebis, ce n'est pas une bonne idée. Une brebis solitaire au milieu d'un champ, tout seul. Un chrétien sans église, c'est la même chose. C'est pour ça que Dieu a donné l'Église, pour que nous ayons la protection du troupeau, que nous sachions vivre la vie chrétienne et déjouer les tentations du diable. Et heureusement, les jeunes peuvent avoir des anciens à qui suivre. Vous savez, j'aime bien cette réflexion, je crois que je l'ai déjà partagée une fois, mais c'est de se dire qu'arriver à l'âge de 25 ans, on se dit souvent, qu'est-ce que j'étais bête et stupide à l'âge de 15 ans. Puis arrivé à l'âge de 40 ans, on dit, qu'est-ce que j'étais bête et stupide et immature à l'âge de 25 ans. Et puis arrivé à 60 ans, on se dit, qu'est-ce que j'étais un peu naïve et immature et bête et stupide à l'âge de 40 ans. Et puis, on avance dans la vie. Mais ça veut dire qu'à l'âge que nous sommes aujourd'hui, dans 10-20 ans, on va dire, qu'est-ce que j'étais bête et stupide et immature. Et donc, du coup, j'ai besoin des anciens pour m'aider, pour me conseiller. Ils ont une expérience de vie chrétienne, de connaissance de la Bible. Et il ne faut pas rejeter cette expérience, garder une certaine humilité, de se dire, j'ai encore des choses à apprendre, notamment de mes pères. Donc, vous voyez l'importance du troupeau. Bien sûr, Pierre s'adresse à toute la communauté et en verset 5, il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. » Donc, le « vous », c'est toute l'Église. Et nous savons que dans l'Église, c'est le « vous », c'est l'Église qui choisit ses anciens. Ce qui permet à l'Église de choisir les modèles qu'ils voudront suivre. Donc, dans le cadre que Dieu a conçu, les anciens ne vous sont pas imposés des gens de l'extérieur. Ils sont choisis par le troupeau, et ce qui permet à ce que le troupeau de réfléchir, mais les troupeaux choisissent des bons modèles qui vont vouloir suivre. Ça, c'est la beauté de l'Église. Donc, nous pouvons chercher dans l'Église, et nous avons tous besoin d'un père, d'un frère qui va nous encourager à aller plus loin. Nous pouvons aussi chercher, non seulement dans l'Église locale, mais on va dire l'Église universelle, ce qu'on appelle souvent l'Église universelle, c'est-à-dire les vrais croyants de tous les âges, de tous les temps, de toutes les cultures. Ça, c'est l'Église au sens large. Et nous avons lu ce matin dans la première partie, Hébreux chapitre 13, où c'est dit « Souvenez-vous de vos conducteurs, considérez quelle a été leur fin et imitez leur foi ». Il appelle ces Hébreux, ces chrétiens hébreux, de se souvenir de leurs conducteurs. Donc, s'il faut en souvenir, probablement ces conducteurs sont déjà partis, peut-être partis dans la gloire ou sont partis ailleurs. Donc, il les appelle, mais à penser à leurs conducteurs. Et ça aussi, nous avons besoin, chacun de nous, de regarder à des chrétiens d'autrefois, des chrétiens d'autres cultures, qui peuvent nous inspirer. Le piège pour chaque génération, c'est de se dire « notre génération, c'est tout ». Nous sommes des experts, nous savons mieux que les vieux. Les anciennes générations, ils ne savent rien, ils ne savaient pas. Mais nous, maintenant, on sait. Non, l'humilité, c'est aussi reconnaître que nous avons besoin de l'exemple de nos ancêtres dans la foi, que nous avons besoin de l'exemple de ceux qui se trouvent dans d'autres contextes, d'autres cultures. Et je pense que dans ce sens, ce verset nous encourage à lire des biographies de chrétiennes, biographies chrétiennes, et s'en inspirer. Dans tout ça, que faut-il imiter, sachant que nous serons influencés? Que imiter? Je repose la question. Parce que le verset dit, souvenez-vous de vos conducteurs, considérez quelle a été leur fin, et imitez leur foi. C'est bon de se rappeler que nous sommes surtout appelés à imiter leur foi, leur attachement à Jésus-Christ, à sa parole. Dieu ne nous appelle pas forcément à imiter telle ou telle personnalité. Hein, les personnalités sont différentes. La personnalité de Pierre ressort fortement dans le Nouveau Testament. On n'est pas tous appelés à imiter sa personnalité. On ne pourrait pas forcément imiter certains talents ou dons particuliers. Justement, la Bible dit que Dieu a donné des dons différents. Alors, on peut aussi se dire, j'ai pas ce don, ou on n'est pas forcément appelé à reproduire exactement un don de l'autre, puisque Dieu insiste sur la diversité des dons. Je reviens sur ce Albert Schweitzer. Il m'a intrigué. Après, j'ai trouvé cette citation sur l'exemple. Je me suis intéressé à sa vie un peu. Très intéressant. Il était pasteur, était théologien, il était médecin, il était missionnaire au Gabon, il était prix Nobel de la paix, il était organiste et il était fabricant d'orgues. Les Alsaciens sont forts. Fortes. Alors j'ai dit, ok, si je dois imiter tout ça, bon, médecin, non. Fabricant d'orgue, non? Prix Nobel de la paix, ça va être chaud. Et d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, c'est que sa foi avait quelques lacunes. Il faisait partie de la mouvance de théologie libérale qui battait son plein à l'époque, il y a un siècle. Et donc, sa foi, ses convictions ne sont pas forcément imitées, bien qu'il a apporté beaucoup de bonnes choses dans la vie, poussé par le message de la Bible, il manifestait de l'amour, notamment dans son parcours missionnaire. Mais on n'est pas forcément appelé à imiter tous les dons et toutes les personnes douées. Mais on peut encore, on imite la foi, on imite le caractère chrétien. Et ça, on voit chez les apôtres. Jésus avait 12 apôtres, il n'avait pas 12 versions identiques de Pierre. Ça, un monde avec 12 Pierres, peut-être non merci. Mais tout comme voilà, Dieu a donné une diversité dans l'Église et dans l'Église universelle, Jésus ne s'intéresse pas au clonage, il s'intéresse à faire des disciples. Et l'avantage de multiplier des modèles et des exemples dans notre vie en cherchant et dans l'Église locale et dans l'Église universelle, c'est de ne pas idolâtrer un seul exemple ou une seule source d'inspiration, mais de trouver plusieurs dans notre vie. Donc je vous appelle encore ce matin à choisir le modèle, peut-être une démarche d'aller, de profiter de la richesse que Dieu a donnée à son Église et dans le temps et parmi nous, et de dire, voilà, peut-être je peux apprendre d'un tel ou un tel illimité. Mais enfin, j'aimerais vous rappeler que inévitablement vous serez déçus par des hommes. Alors regardez à Christ. Christ seul est l'exemple parfait et plus encore. Et c'est pour ça que Pierre, il me semble, parle du souverain berger dans ces versets. Vous voyez en verset 4, et lorsque le souverain berger paraîtra, il a parlé à des bergers, à des pasteurs, mais il dit que les bergers d'église doivent eux-mêmes regarder au souverain berger pour leur inspiration et pour leur modèle. Et ça, c'est pour nous tous. Nous regardons tous, pas que à des hommes, mais nous regardons tous à Jésus, qui est le souverain, l'ultime berger pour nous tous. Et c'est ce que Pierre avait déjà dit dans cette même épître. Il a parlé de Jésus comme l'exemple, en chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, à souffrir même, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc là, on a parlé surtout des souffrances et des faiblesses, qui est le thème majeur de cet épître. Et donc là, Christ est un exemple pour nous tous de comment traverser les épreuves, comment souffrir, comment ne pas riposter avec haine, avec violence, mais de subir parfois et d'accepter avec humilité les difficultés. Christ est un exemple parfait de vie chrétienne, de caractère chrétien, de souffrance. Et c'est une des qualités essentielles d'un disciple, si vous voulez apprendre cette vie de disciple, c'est qu'un disciple, il apprend à s'appuyer surtout sur Jésus-Christ. Quelque part, on chante « En Jésus seul » et « Mon espérance ». Un disciple doit apprendre à s'appuyer surtout sur Jésus. Et ça fait que quand vous êtes déçu par les hommes, et vous le serez, vous êtes déçu, mais vous n'êtes pas détruit. Vous êtes déçu. Vous êtes blessé, mais vous n'êtes pas détruit. Votre foi n'est pas anéantie. Quand on est déçu par les hommes, qu'on pense être des modèles, cela devrait confirmer notre attachement à Christ et ce qu'il a fait pour nous, et ne pas le remettre en cause. Donc si vous vous trouvez à vous dire, j'étais déçu par les gens de mon église, alors j'abandonne Christ, j'abandonne la foi, c'est que quelque part il y avait un problème de votre foi, dans votre foi. Votre foi a toujours besoin de s'attacher à Christ, qui lui reste le même. Lui est le parfait berger, le parfait pasteur. Et puis finalement, cette image du berger nous amène à voir plus loin que l'exemple. Quand on pense à des brebis et des bergers, il n'y a pas que l'exemple qui les relie en fait. Il y a un sens où les brebis vont jamais pouvoir complètement imiter un berger. Les brebis sont des brebis. Un berger n'est pas une brebis. Et ça, c'est ce rapport entre Christ et son troupeau. Même les pasteurs, les hommes, restent des brebis, finalement, les brebis du Seigneur. Et les brebis et un berger, les brebis vont jamais être à la hauteur d'un berger. De la même manière que nous ne serons jamais à la hauteur de l'exemple de Jésus-Christ. Lorsqu'on se compare à lui, bien qu'il soit notre exemple en beaucoup de choses, on voit à quel point nous sommes déficients. Il y a même des choses que Jésus a fait que nous ne pouvons pas imiter, notamment mourir sur la croix pour le monde entier. Si Jésus n'était qu'un modèle, un exemple, ce matin, on serait juste une autre religion parmi tant d'autres. Si Jésus n'était qu'un modèle, un exemple, il serait pareil que tous les autres fondateurs de religion, Bouddha, Mahomet, qui vous donnent des principes à vivre et à suivre, et vous essayez de les imiter, tant bien que mal. Mais Jésus est plus qu'un exemple, il est plus qu'un fondateur de religion. Vous savez, une brebis qui tombait par une falaise, il n'a pas besoin à ce moment d'une cour d'escalade. Ou simplement un modèle d'escalade. Quelqu'un en train de se noyer n'a pas besoin d'un cours de natation. ou d'un tuto YouTube. Quelqu'un en train de se noyer ou une brebis qui tombe par une falaise, de quoi elle a besoin? Il a besoin d'un secouriste, il a besoin d'un sauveur. Et ça, c'est nous aussi. Nous avons besoin plus qu'un modèle, nous avons besoin d'un sauveur. Et pour cela, Dieu nous a donné son Fils Jésus. Oui, modèle parfait, mais plus encore, Jésus a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Je fais ce que mes brebis ne peuvent pas faire, se sauver. Et Jésus a souvent appelé ses disciples à le suivre. Suis-moi, suis-moi, il a dit tout au long de son parcours. Mais la dernière nuit, il a dit à ses disciples, là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre. Ils étaient troublés. Pierre même, n'importe quoi, je vais te suivre. Pierre, tu n'as pas compris. Là où je vais, tu ne peux pas me suivre. Ça, c'est moi seul. Le héros seul peut faire ça. Et lui, là où les autres ne pouvaient pas le suivre, c'était notamment sur la croix, dans le tombeau, et ensuite la résurrection. Et là, il a fait ça pour accorder le salut à ses brebis. Donc, vous voyez, on a besoin plus qu'un modèle, on a besoin de Jésus-Christ. Et quand on fait des constats ce matin, inévitablement, vous serez un modèle pour d'autres. Soyez un bon. Et puis on s'est dit, je n'ai pas toujours été un bon modèle. Qu'est-ce que je fais là? Ou bien, inévitablement, vous serez influencé par d'autres modèles. Choisissez les biens, mais vous dites, j'ai suivi des mauvaises personnes qui m'ont détourné. Et bien là, regardez à Christ. Lui, il nous pardonne. Et il nous prend, il nous gracie, il est ce secouriste, ce sauveur qui nous prend malgré nos échecs et nos défaillances. Et si nous confessons nos fautes et nous saisissons sa grâce, eh bien nous connaîtrons le salut et nous pouvons avancer dans cette vie de disciple. Je vous invite à terminer dans la prière. Seigneur, nous reconnaissons ce matin encore une fois l'importance de l'exemple pour réussir cette vie de disciple. Nous te prions que dans notre Église, il y a des relations qui se créent, qui sont fraternelles et qui sont utiles pour transmettre nos modèles. Nous te prions, nous te remercions pour nos anciens, le conseil, nous te remercions pour leur modèle. Nous te remercions pour tous les responsables de cette Église et nous te prions de nous équiper, de nous rappeler que nous sommes toujours observés et que nous pouvons influencer des vies par un bon modèle. Nous reconnaissons nos défaillances aussi, et c'est pour ça que nous appelons nous invoquons ton nom, et nous tournons nos regards vers Jésus-Christ qui nous a sauvés. Lui, le souverain berger, il a donné sa vie pour nous, et c'est ça qui nous sauve. Que cela nous réjouisse encore ce matin et nous donne l'envie de le suivre et d'attirer d'autres vers lui. Merci pour ce culte que nous avons vécu ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen.